Le vulgarisateur d'actualité que vous appréciez autant que nous ici à Rage Against le matin et aussi, évidemment, sur les réseaux sociaux. Farnell Morissette est avec nous. Farnell, bon lundi matin. Oh, excuse-moi, j'ai même pas... Attends, vas-y!
Ah, salut, Mignon. Bon lundi matin, comment ça va?
Ça va super bien, ça va super bien. Tabarouette, on a un quoi, 48 heures complètement capoté.
Ouais.
Chez nos voisins du sud aux États-Unis. Tu sais, un point tel que je me demande même, je suis comme, OK, on peut quasiment piger dans le... dans un chapeau là, pour le sujet, pour commencer la petite discussion.
C'est ça, c'est pas une chose qui s'est passée, là. C'est plein de choses différentes qui sont toutes un peu en confluence aux États-Unis en fin de semaine. Ça a été une grosse fin de semaine pour...
Je te laisse, sais-tu quoi, t'as analysé ça pour nous et je te laisse le choix du sujet pour commencer la discussion. Ben, tu veux partir où?
Ouais, je commencerai peut-être même avant de rentrer avec une notion qui est la notion des contre-pouvoirs. Ça va être important qu'on va en parler. Un contre-pouvoir, c'est un terme qui est très large, là. Ça veut dire toutes les façons, tous les systèmes en place, formels ou informels, pour ralentir, pour empêcher ou pour forcer le pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement, de changer de direction ou de reculer. Alors, je veux dire, des contre-pouvoirs, il y a des contre-pouvoirs formels. Les partis d'opposition, mm-hmm. les tribunaux, ça, c'est des contre-pouvoirs très formels. Des contre-pouvoirs semi-formels, il y a les médias. Mais on peut aller jusqu'à des contre-pouvoirs informels comme les associations professionnelles, les syndicats, les associations de travailleurs, les groupes de pression citoyens, allant jusqu'à même les coops de quartier. C'est tous des réseaux qui sont déjà préétablis de gens qui se connaissent, qui sont organisés, qui sont capables de se coordonner. Et si on regarde ce qui s'est passé en fin de semaine avec les méga manifestations du No King's Day, la journée sans roi, qu'il y a eu entre 5 à 11 millions de participants, dépendant des estimés, c'est encore incertain parce que c'est encore frais, c'est un très bon exemple des contre-pouvoirs informels qui sont en train de s'activer parce qu'on sait que l'administration Trump s'en est pris fortement aux contre-pouvoirs formels. Mais s'il y a une chose qu'on peut se rappeler des États-Unis, c'est fondamentalement... les citoyens des États-Unis sont les mêmes qui étaient il y a 6 mois, c'est les mêmes qui étaient il y a 1 an. Et c'est pas des gens qui ne veulent... c'est pas des gens qui veulent ce qu'on voit présentement. Donald Trump a des appuis, certainement, mais c'est pas la majorité. Et la majorité est toujours prête à se mobiliser, toujours prête à faire défendre ses droits, sa démocratie. Et ben, l'affaire des contre-pouvoirs, particulièrement aux États-Unis, c'est qu'ils sont plus lents. Ils sont toujours plus lents que la présidence. La présidence est conçue pour agir rapidement. Mais quand les contre-pouvoirs aux États-Unis s'organisent, généralement, à travers l'histoire, c'est eux qui ont le go au bout du bâton.
Tu parles de contre-pouvoir et là, tu parles de groupes citoyens qui se mobilisent, manifestations entre 5 à 11 millions. Donald Trump est très virulent contre les contre-pouvoirs, que ce soit l'opposition au niveau de la Chambre des congrès, les démocrates, même les juges, le système de justice. Ça va être difficile pour lui, par exemple, d'être quand même assez percutant contre des citoyens américains, la classe moyenne pour laquelle... il a misé pour se faire élire.
Oui, ça va. C'est ça la force de justement cette espèce de manifestation de masse-là, particulièrement contre des gouvernements à tendance autoritaire comme Donald Trump, qui prisent leur légitimité implicite en disant ben, « j'ai gagné les élections, donc c'est moi qui ai l'appui du public ». Là, quand il y a 5 à 11 millions de gens dans les rues de presque toutes les grandes villes, même juste plusieurs des petits villages à travers les États-Unis, dans des États qui sont républicains même, ça devient très difficile pour Donald Trump de se virer de bord et de dire « ben oui, c'est moi qui ai encore l'autorité démocratique légitime parce que c'est moi qui ai gagné les élections ». Surtout la même journée qui a fait une parade militaire ostensiblement en honneur du 250e anniversaire de l'armée, mais qui tombait sur sa fête, juste demain.
Ouais, c'est ça. Drôle
d'adon. Drôle d'adon, c'est ça. Et que cette parade-là, selon les images qu'on a vues, n'a pas été un grand succès populaire non plus.
Et également dans des grandes villes d'État pivot. Je continue sur la notion de contre-pouvoir. Est-ce que le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a donné justement la légitimité au peuple d'utiliser son contre-pouvoir avec sa bataille contre Donald Trump la semaine dernière?
Présentement, Gavin Newsom se présente certainement comme, disons, le point de cristallisation de plusieurs des contre-pouvoirs, mais il ne faut pas, je pense, voir Gavin Newsom comme étant l'individu qui mène la charge en réponse. C'est pas Gavin Newsom en Californie qui a inspiré bien des gens au Texas, je pense, de sortir pour le No King's Day. Même Gavin Newsom est un centriste qui n'est pas très aimé des ailes plus de gauche aux États-Unis non plus. Alors, il faut vraiment le voir comme un exemple, je pense, des groupes citoyens eux-mêmes. T'sais, parmi les organisateurs du No King's Day, il y a des syndicats d'enseignants, des syndicats de travailleurs en mécanique qui ont été les chefs organisateurs. Il y en a d'autres, il y a aussi des groupes de juristes, plein d'autres affaires, mais c'est un amalgame de ces groupes-là qui n'a pas un point central de leadership très clair, qui mise pas sur une personne. Et c'est ça qui va le rendre, je pense, très efficace, c'est que c'est un mouvement de masse contre un individu qui revendique son autorité du fait qu'il a été élu par la masse.
Tu mentionnais que pour le pouvoir aux États-Unis, c'est fait pour qu'on puisse agir rapidement, alors que les contre-pouvoirs, souvent, oui, on finit par avoir raison, mais c'est pas mal plus long. Là, quand tu regardes, qu'est-ce qui pourrait changer quand? Y a-tu des chances qu'il y ait des changements dans les prochaines semaines, les prochains mois, dans la façon de faire de Donald Trump, où tu te dis... Ouais, malheureusement, Trump étant Trump, tant qu'il est au pouvoir, puis tant que il continue de faire ce qu'il veut, ben il y a rien qui peut changer tant que ça.
Il ne faut pas s'imaginer que les contre-pouvoirs vont mener à renverser le gouvernement Trump. Je ne pense pas que ça va arriver. On peut s'imaginer dans les prochains jours, aujourd'hui, demain, Donald Trump va sortir, se féliciter de la plus belle, la plus grande parade militaire de l'histoire des États-Unis et probablement du monde. Mais reste que pour que Donald Trump puisse exercer son pouvoir aussi rapidement qu'il le fait, il faut qu'il maintienne l'illusion à travers le public qu'il a encore l'espèce d'autorité d'appui des masses. Et je pense que beaucoup de ces appuis qui vont regarder ce qui s'est passé en fin de semaine et se dire « plus sûr que c'est encore là ». Et même si, je veux dire, c'est sûr, là, il y a 300 millions de personnes aux États-Unis, même si c'est 11 millions, ça reste une très petite proportion des gens, mais c'est des gens qui se mobilisent, c'est des gens qui sont prêts à s'activer. Si t'es prêt à passer une journée pour aller marcher dans la rue, t'es prêt à passer une journée pour aller chercher des fonds pour un opposant, t'es prêt à passer une journée pour partager des tracts, pour faire des appels. Et ça, les partisans, les alliés plutôt politiques de Donald Trump qui lui donnent son clé à l'exercice du pouvoir le savent, vont regarder ça. Et j'ai l'impression que ce qui va arriver, c'est qu'à l'interne, il y a beaucoup de gens derrière des portes closes qui vont dire à Donald Trump, ouais, non, si t'essaies d'aller dans cette direction-là, ça va trop loin pour nous, je pense plus que tu as les appuis pour ça. Ça va pas faire des changements rapides et immédiats très clairs, mais on va commencer à avoir peut-être une modération du message. Si le mouvement de masse a été efficace.
Farnell, tu l'as bien mentionné, et Donald Trump va probablement dire le contraire, mais la parade militaire qui a été qualifiée d'ennuyeuse, on regardait les gradins, c'était pas plein, ça n'a pas l'air d'avoir été un grand succès. Est-ce que ça démontre l'essoufflement du mouvement MAGA ou un événement comme ça, même si ça n'a pas le succès qu'on voulait chez Donald Trump, ça vient même pas frapper sa réputation?
Je pense que c'est dur à dire parce que même l'inauguration de Donald Trump n'a pas été... on n'a pas pu tester la taille des foules. C'était à l'intérieur parce qu'il faisait trop froid. Ouais. Les rallyes de Donald Trump vers la fin, c'était pas ce qui était de plus populaire non plus. Mais ça reste que les appuis de Donald Trump, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'appui faible. Puis pas faible au sens que c'est des individus qui sont faibles, mais dans le sens que c'est des gens qui vont « Ouais, je vais aller voter pour lui », mais ils vont pas faire d'autres activités politiques. Ils vont pas se présenter à des rallyes, ils vont pas se présenter à des parades, ils vont pas, après ça, faire le genre de militantisme qui assure un exercice continu et fort du pouvoir. Chose qu'on est en train de voir s'établir dans l'opposition à Donald Trump.
Il y a eu le meurtre ce week-end de Melissa Hartman, élue au Minnesota, ex-présidente justement là, de la Chambre des représentants du Minnesota du côté démocrate. Est-ce que c'est un geste de violence anodin ou tout le climat politique qu'on a aux États-Unis à l'heure actuelle, puis là, tu sais, je veux pas me lancer dans des théories du complot, mais amène justement certains individus à pencher vers la violence?
Alimente peut-être?
Oui, hein? Alimente.
Oui, pour l'instant, ce qui est... Ben, d'abord, il faut souligner que c'est une tragédie humaine. Tout assassinat est d'abord un meurtre, faut pas l'oublier. Ouais. Un assassinat, c'est un meurtre qui est à revendication politique, mais ça reste que, je veux dire, il y a des gens qui sont morts. Et ça, c'est très triste. Alors, j'hésite à suivre en disant « mais heureusement ». Alors, je veux plutôt dire, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut réaliser, c'est que ça semble être l'action d'un individu. On n'a pas encore tous les détails, et puis, je veux dire, l'enquête est encore en cours, à ma connaissance, à cette heure-ci. On n'a pas encore retrouvé le suspect, mais tout indique que c'est pas quelqu'un qui travaille pour une organisation. Alors ça, déjà, bonne nouvelle. Mais oui, absolument, le plus la rhétorique belliqueuse, guerrière, combative augmente, il y a toujours des gens qui sont à un mauvais mot de devenir un peu trop crinqués dans la société. C'est des gens qui sont pris de problèmes de santé mentale, par exemple, ou une frustration particulière, que le plus on utilise du langage violent dans notre rhétorique politique, le plus ça en encourage des gens à tomber dans une réelle violence. Et il faut faire attention avec ça aussi.
Ben, parce que pour moi, il n'y a pas de hasard. Parade militaire, puis cet événement-là, tu sais, c'est deux gestes à connotation de violence, là,
ouais.
d'imposer la force.
Oui, puis sans du tout vouloir déresponsabiliser l'individu. La personne,
non, du tout.
L'ultime responsable du geste, c'est la personne qui le commet. Mais oui, quand on commence à influencer d'une telle force les gens, il va y avoir quelques crinqués à quelque part qui vont mal comprendre le message, qui vont pas voir que c'est purement de la rhétorique, qu'on utilise du langage fleuri, disons, pour vouloir exprimer une force d'une opinion, qui vont juste y voir une expression de la force et qui vont répondre de cette façon-là.
Le suspect qui a été arrêté en passant dans les, dans les dernières heures.
Parfait.
Du côté du Minnesota.
Ouais.
Hey, Farnell, est-ce que c'est juste une idée que je me fais quand je regarde ce qui se passe aux États-Unis dans l'actualité et je vois comme coup dur après coup dur sur la réputation ou la popularité ou le charme, si on veut l'appeler comme ça, de Donald Trump? Est-ce que il est en train de vraiment s'enfoncer et, entre guillemets, creuser son propre trou, ou ça y passe 5 pieds par-dessus la tête? Là?
Ça, c'est difficile à savoir parce que Trump a une stratégie bien connue qui est de toujours déclarer la victoire, peu importe ce qui arrive. Et alors, publiquement, il va jamais admettre qu'il recule ou qu'il change d'idée ou que suite à des pressions qui ont été exercées sur lui, il se redirige. C'est une des raisons pourquoi il cultive autant de confusion autour de ses annonces qui disent à peu près tout, rien et leur inverse. Ça lui permet d'avoir toute la place nécessaire pour pouvoir après ça choisir laquelle des avenues qu'il a annoncées il va adopter. On va pas le savoir. On va pas le savoir publiquement, mais on peut avoir confiance que dans les discussions privées, c'est certainement... M. Trump n'est pas quelqu'un qui s'avance s'il pense qu'il n'y a aucune chance de gagner. Et, je veux dire, le surnom qu'on lui commence à lui donner, Taco, Trump always chickens out, wow. C'est que, bon, ben, les gens commencent à réaliser que peu importe les paroles grandioses, mis la main au feu, il tend à reculer assez rapidement. Alors, on verra dans les prochains jours, mais je serais très surpris qu'il n'y ait pas un changement notable qui ne va pas être immédiatement observable, mais dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, suite à l'échec de la parade et le succès des contre-manifestations.
Je veux faire une comparaison avec un événement historique qui s'est produit au Québec 1990, 22 juin. C'est l'accord du lac Meech qui n'est pas ratifié. Et à ce moment-là, on est à l'approche de la Saint-Jean-Baptiste et le lendemain, à l'Assemblée nationale, Robert Bourassa fait un discours extrêmement nationaliste qui a même Jacques Parizeau, chef du PQ, à dire « Monsieur Bourassa, mon premier ministre ». Est-ce que Donald Trump peut devenir ce rassembleur pour les États-Unis comme Robert Bourassa l'a été à l'époque pour le Québec?
Non, je pense pas. J'aimerais ça, j'aimerais vraiment ça, mais même, je pense, tristement, même s'il y avait la volonté de M. Trump de le faire, et je pense pas que cette volonté-là existe de la part de l'administration Trump, mais même s'il y avait la volonté de le faire, je pense que ce serait trop peu, trop tard, trop loin. La société, une fois que les contre-pouvoirs sont activés, c'est une grosse roue. Hein. Quand ça commence à rouler, c'est difficile à faire bouger, mais quand commence, c'est difficile d'arrêter aussi. Je pense qu'il y a bien des gens pour qui la croix, elle est claire. Ça ne sera jamais quelqu'un derrière qui vont pouvoir se rallier, peu importe ce qu'il dit. Alors, reste à voir après ça. Ça lui empêche pas de pouvoir devenir un administrateur, quelqu'un qui va gouverner les États-Unis, peut-être plus de façon un peu plus modérée, mais je pense que la fracture sociale va pas se soigner sous Donald Trump, en tout cas pas dans les 3 prochaines années et demie qui nous restent.
Allez le suivre sur les réseaux sociaux, c'est une excellente façon d'être bien au courant et bien comprendre ce qui se passe dans l'actualité. Farnell Morissette, comme toujours, un immense plaisir. Merci de passer nous voir ce matin.
Merci de m'accueillir, c'est toujours un plaisir aussi.
À bientôt.
Salut. Red.